C'est vraiment une très très bonne chose que nous ayons pu terminer ce moment de louange par ce refrain. Merci notre Père d'avoir envoyé ton Fils Jésus et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Et en plus on l'a chanté bien fort. Et c'est vraiment, vraiment la parole appropriée pour ce culte. Merci notre Père d'avoir envoyé ton Fils, non seulement ton Fils, mais aussi ton esprit. Si Dieu n'avait pas envoyé son esprit, nous serions orphelins, puisque Jésus serait retourné auprès de son Père, et nous serions tous là, en train de tourner autour du pot. Où irions-nous? Que ferions-nous? Qui suivrions-nous? Mais dans sa grâce, il ne nous a pas laissés orphelins, et il nous a envoyé son esprit. Et aujourd'hui, nous pouvons nous rappeler de cette grâce extraordinaire, du Saint-Esprit survenant sur nous et qui fait de nous des témoins. Et la Pentecôte, bien évidemment, c'est important que, enfants de Dieu, nous puissions, par exemple, comme pour Noël, célébrer certains moments pour affirmer que c'est bien arrivé et que ça a un sens. Mais bien sûr, la Pentecôte, c'est censé être un événement constant, sans cesse dans l'Église. Ça ne devrait pas être un moment particulier. Mais c'est bien que nous puissions avoir des moments où nous nous arrêtons autour de ce grand fait, ce fait fantastique, parce que la Pentecôte, c'est aussi la fête de Dieu qui tient sa promesse. De Dieu qui tient sa promesse. Imaginez le nombre de jours qu'ils ont attendu que la promesse s'accomplisse. Moi, j'imagine qu'il y en avait certains, un peu dans votre genre, qui étaient là, oui, mais vous êtes sûr que ça va vraiment arriver? Oui, parce qu'il a dit ça, mais on est toujours là, on attend à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'on fait? On joue au domino, on joue à la belote. Oui. Mais il a accompli sa promesse et le Saint-Esprit est vraiment venu. Donc c'est vraiment une fête fantastique que nous célébrons ce jour et c'est vraiment très bien que nous puissions être là aujourd'hui. Voilà, nous allons aujourd'hui méditer et le thème de ce matin, en lien avec la Pentecôte, ce sera les deux mains de Dieu. Les deux mains de Dieu. Et nous allons pour cela lire justement le texte de la Pentecôte, ou en tout cas, bon, on l'appellera comme ça pour ne pas compliquer les choses, dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, versets 1 à 14, c'est un texte bien connu. Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Actes chapitre 2, versets 1 à 14. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel, c'était comme un si violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes, ou Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons de Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue, des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire ?» mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disaient-ils, ils ont trop bu. Alors Pierre se leva entouré des onze et d'une voix forte, il dit à la foule, écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Et nous allons sauter dans le même chapitre, le verset 37, jusqu'au verset 37 de Actes chapitre 2. Verset 37, ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et les encourager en disant, recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Amen. Et un autre texte, 1 Corinthiens chapitre 2, ce sera tout pour nos lectures. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2. C'est pourquoi moi aussi, frères, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant le prestige de l'éloquence ou de la sagesse, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ni la sagesse des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Non. Nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent, et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde, en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que l'oreille n'a pas entendu, de ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'Esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons non avec des termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet Esprit peut, lui, juger de tout, sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit, « Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire ? Mais nous, nous avons la pensée de Christ. » Amen. Ah là là, la Pentecôte. Que c'est fantastique. Nous avons lu ce texte de Actes chapitre 2, un texte magnifique, on voudrait tous avoir été là, on voudrait tous revivre ça, c'est notre volonté d'être là un jour en réunion de prière, et je ne le dis pas en riant, et de vivre des choses aussi merveilleuses. Et partir dans les rues, poussé par l'Esprit, c'est vraiment la puissance de la grâce de Dieu. Alors, ce texte est particulier, et surtout les portions que nous avons lues, parce que ça montre vraiment, de manière très très particulière, comment est-ce que Dieu a agi dans ce peuple-là. Comment est-ce que Dieu a agi parmi ses croyants? Comment est-ce que Dieu a agi à cette époque-là? Quels sont les moyens, les voies par lesquelles il a fait connaître l'Évangile? C'est merveilleux parce que on voit le don de l'Esprit. On nous dit que les disciples étaient tous rassemblés ensemble, ils étaient tous en train de prier, ils cherchaient la face de Dieu, ils vivaient dans l'unité, ils n'étaient pas fâchés les uns contre les autres, ils n'étaient pas chacun dans leur coin, ils étaient tous unis ensemble autour de Jésus, autour de sa grâce, autour de sa personne. Et alors qu'ils étaient rassemblés, le Saint-Esprit est tombé sur eux, si bien qu'ils ont commencé à parler des langues, qui n'étaient pas des langues nouvelles, mais bien des langues compréhensibles par les autres. Les personnes comprenaient ce qu'ils disaient dans leur propre langue. Justement parce que l'objectif du parler en langue, le premier objectif de se parler en langue là, c'est de permettre que le message de Dieu soit compris par des personnes d'une autre langue, alors que nous ne connaissons pas leur langue. Vous comprenez que s'il fallait apprendre toutes les langues du monde entier pour faire connaître l'Évangile, on ne s'en sortirait pas. Et aujourd'hui encore, des missionnaires ont vécu cette expérience-là. Un missionnaire belge qui va en Russie, et puis tout à coup qui est capable de transmettre le message en russe, alors qu'il n'a jamais appris le russe. Parce que justement, Dieu veut que sa parole puisse se répandre. Et alors qu'ils sont remplis de l'Esprit, qu'ils sont là en train d'annoncer les merveilles de Dieu, un peu plus loin, on voit Pierre qui d'une voix forte, il nous est dit, proclame le message de Dieu. Il se lève, on se demande un petit peu s'il n'était pas un petit peu timide ou quoi, mais en tout cas, voilà que Pierre prend ses responsabilités, il se lève et il annonce l'Évangile à tout ce peuple-là. Que c'est fantastique. Et ce jour-là, nous dit le texte, 3000 personnes furent converties. 3000. Waouh, que c'est merveilleux. Et dans ce texte-là, justement, en particulier, on peut voir de manière très spécifique les deux mains de Dieu. Les deux mains par lesquelles Dieu agit et par lesquelles Dieu a fait connaître sa gloire aux hommes. D'abord, il fait connaître sa gloire par son esprit et il l'a fait connaître par sa parole. Les deux mains de Dieu, l'esprit et la parole. Et justement, dans le monde chrétien, au milieu de nous, très souvent, c'est ça le débat qu'il y a. C'est qu'on oppose l'esprit et la parole. On a des gens qui se revendiquent parfois plus de la parole et moins de l'esprit, donc qui se revendiquent beaucoup plus de l'esprit et moins de la parole. Et on a donc une opposition, un conflit entre ces deux aspects-là de Dieu, qui crée parfois des différents courants évangéliques ou d'autres. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment nous arrêter sur ce texte pour prendre conscience que l'Esprit et la parole sont les mains de Dieu, sont les moyens, les deux moyens par lesquels Dieu fait connaître sa gloire, par lesquels Dieu agit. Nous sommes humains, nous avons deux mains. Et chaque fois que nous avons un dessein dans notre esprit, dans notre tête, eh bien, nous allons utiliser nos mains pour mettre en œuvre ce dessin-là. Et chaque matin, ben, nous avons un premier dessin, c'est de prendre la brosse à dents, et ben, nous prenons la brosse à dents, avec une main souvent. Hein, on la prend et après, par la suite, on pose tout un ensemble d'actes qui vont nous demander d'utiliser nos deux mains. Et c'est la même chose dans toute la Bible, on voit comment est-ce que Dieu agit avec sa parole et avec son esprit. Les deux ensemble, les deux combinés, les deux toujours présents, les deux toujours ensemble, les deux toujours associés, complémentaires pour faire la puissance de Dieu, pour manifester la puissance de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, nous avons à avoir cet attachement, cette compréhension de la complémentarité qu'il y a entre l'esprit et la parole. Malheureusement, effectivement, les déviances qu'il y a eu ont fait que certains ont dit « Nous, on est des gens de la parole. On est des gens de la parole. L'esprit, oui, ben oui, il est là, on le sait bien, il est au milieu de nous, mais on n'en parle pas trop et on l'écrase au maximum, l'esprit, et on le jette. » Nous, c'est la parole, la parole. Et puis, il y en a d'autres qui disaient « Oui, ben non, nous, la parole, on s'en fiche, l'esprit nous dit tout. Hein, l'esprit nous dit tout, on n'a pas besoin de lire, on n'a pas besoin de s'occuper de ce qui est écrit, on a l'esprit. » Et justement, quand on veut opposer ces deux choses, quand on veut se revendiquer plus de l'esprit ou plus de la parole, eh bien on s'éloigne de la vérité de la parole de Dieu. On s'éloigne de Dieu, justement, parce qu'il utilise les deux de manière complémentaire pour accomplir ses desseins.
Où est-ce que nous voyons ça? La toute première fois, vous le savez, et vous êtes tous en train d'y penser depuis tout à l'heure, vous avez envie de le dire. Allez-y, dites-le. Ouh là là. Mais oui, je sais que vous avez... C'est au bout de votre langue. Où est-ce qu'on voit ça la première fois? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière... L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit. Et une version de Genèse, chapitre 1, nous dit « L'Esprit attendait au-dessus des eaux. » Alors, qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait justement la parole qui le met en action pour accomplir la volonté de Dieu. Depuis la création, Dieu utilise son esprit qui est présent, qui est là, qui attend, qui est disposé à faire sa volonté et sa parole par laquelle il déclenche l'action de son esprit. Donc depuis la création, c'est comme ça que Dieu agit. Il a avec lui son esprit, il a avec lui la parole. Et vous voyez que très souvent, d'ailleurs, quand on voit... certains textes, certaines réalités, on a toujours cette présence des deux éléments en même temps. Par exemple, quand Jésus est baptisé, il est baptisé dans l'eau, il est dans l'eau, et puis lorsqu'il se relève, la parole nous dit tiens, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je ne sais plus. Voilà. Et le Saint-Esprit descendu sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc alors que Jésus est baptisé dans l'eau, il sort de l'eau, le Saint-Esprit descend sur lui et au même moment, une voix, une parole se fait entendre disant « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. » Voilà comment est-ce que Dieu donne cette vision à ses enfants de comment est-ce qu'il veut agir au milieu de nous, de comment est-ce qu'il veut agir dans la création. Alors Dieu le fait premièrement et la toute première raison pour laquelle Dieu utilise sa parole et son esprit, c'est pour parler aux hommes, c'est pour se faire connaître aux hommes. Vous avez vu que dans le texte d'1 Corinthiens chapitre 2, on nous dit que l'esprit sonde, scrute les profondeurs les plus intimes de Dieu. Et cet esprit que nous recevons à la conversion, c'est un esprit qui nous révèle qui est Dieu. Quand on dit qu'il scrute les parties les plus intimes de Dieu, ça veut dire qu'une fois que nous sommes remplis du Saint-Esprit, cet Esprit nous permet de découvrir le Père, de découvrir le Père dans tout ce qu'il est. Alors bien évidemment, il est infini, on ne peut pas le saisir avec notre esprit humain, mais en tout cas, au fur et à mesure que nous avançons, l'Esprit de Dieu nous révèle qui est Dieu, nous permet d'avoir une relation avec lui, une relation personnelle, une relation vivante, une relation où nous découvrons qui il est. Il utilise sa parole et son esprit pour se faire connaître aux hommes. Il utilise sa parole et son esprit, par exemple, lorsque nous lisons dans 2 Pierre 1, verset 21, « C'est le Saint-Esprit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Encore une fois, l'action de la parole et de l'esprit. La Bible que nous voyons, dit ce texte de 2 Pierre 2, verset 21, c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré les hommes afin qu'ils écrivent et que nous puissions avoir ce qui est écrit. Donc il y a encore une fois l'Esprit qui inspire celui qui écrit et ensuite la parole qui vient jusqu'à nous. Lorsque les prophètes parlaient au nom de Dieu, l'Esprit les mouvait et ensuite la parole était proclamée et agissait, comme il nous est dit que la parole ne revient pas à lui sans avoir fait ce pour quoi elle a été envoyée. L'Esprit et la parole sont donnés pour se faire connaître aux hommes. Dieu veut se faire connaître aux hommes. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour enseigner, pour instruire. C'est la raison pour laquelle, dans les liturgies protestantes, avant de lire la Bible, on fait toujours ce qu'on appelle une prière d'illumination. Prière d'illumination, c'est-à-dire qu'on prie pour que l'Esprit qui a inspiré la parole nous éclaire pour que nous puissions la comprendre. Parce que bien évidemment, il y a plein de savants qui ont ouvert la Bible. Plein de savants. Des gens qui connaissaient plein de choses, qui avaient des connaissances faramineuses, qui ont ouvert la Bible, ils avaient toujours quelque chose à dire. Et il y aura toujours quelque chose à dire, que ce soit d'un point de vue historique, d'un point de vue archéologique, il y aura toujours quelque chose à dire. Il dit, oui, mais ça, c'était pas tout à fait ça comme ça, mais le texte n'est pas tout à fait correct au départ, ou le premier script, c'était pas comme ça. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons comprendre la parole de Dieu, nous avons besoin que son esprit nous éclaire, que son esprit nous montre la voie. Avant de prêcher, nous prions parce que nous voulons que ce soit l'esprit de Dieu qui nous ouvre l'intelligence. Il ne suffit pas, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, d'apporter des discours pleins de sagesse, pleins d'intelligence, de dire ah ben oui, voilà, il ne suffit pas de citer des versets. C'est le Saint-Esprit qui doit ouvrir nos yeux, qui doit illuminer nos yeux pour que nous comprenions la parole de Dieu. Et le terme illumination, on l'utilise parce qu'en fait, en théologie, quand on dit la révélation, c'est, elle est terminée, c'est les moyens par lesquels Dieu s'est fait connaître aux hommes. Et une fois que Christ est venu, ben c'est le dernier moyen par lequel il s'est fait connaître aux hommes. Par Christ, par son Fils, ultimement, par son Fils. Et aujourd'hui, lorsque nous avançons, eh bien cet esprit-là nous illumine, nous permet de comprendre de nouvelles choses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire un texte biblique que vous avez déjà lu? Et puis cette fois-là, quand vous le lisez, c'est comme si, tiens, mais ça fait 15 ans que je lis la Bible, ça fait 15 ans que je lis le même texte, et aujourd'hui, il me dit quelque chose de différent. Justement parce que Dieu, lorsque nous sommes en train de lire sa parole, ouvre notre intelligence sur des points particuliers, il surligne des points particuliers qui correspondent à nos besoins du moment. L'Esprit de Dieu nous éclaire pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu, pour que nous puissions le connaître. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène dans la présence de Dieu. Et nous le chantons parfois dans ta présence, j'entre Seigneur, tout ébloui par ta splendeur. C'est cet Esprit-là qui nous amène et qui nous fait découvrir Dieu. C'est cet Esprit-là qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu parce que la Bible nous dit que nous ne savons pas comment prier. Et que c'est lui qui nous enseigne comment prier. Alors, ça c'est souvent un verset qui nous étonne parce qu'on dit, ben oui, je prie. En réalité, tout acte que nous posons vis-à-vis de Dieu est un acte qui est fait par l'Esprit qui habite en nous. L'Esprit, l'homme charnel, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 2, ne peut pas connaître les choses de Dieu. Ça lui est complètement étranger. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un dans la rue et vous commencez à lui dire, ben oui, le Saint-Esprit, et tout ça, il vous regarde comme pour dire, mais il est complètement malade, ce type, qu'est-ce... Et c'est la réaction qu'ont eu les gens quand ils ont vu les langues de feu, ils ont dit, mais ils ont bu ou quoi? Parce que l'homme charnel ne connaît pas les choses de l'Esprit. Mais nous qui avons reçu cet Esprit, nous en qui habite cet Esprit, il nous fait connaître qui est Dieu, il nous apprend comment prier, il nous illumine lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, afin que nous puissions connaître qui est Dieu. Et c'est ça tout l'objectif de notre vie chrétienne, c'est que nous puissions découvrir qui est Dieu. Et que nous puissions vivre une vie auprès de lui. Premièrement, Dieu utilise sa parole et son esprit pour se faire connaître aux hommes. Deuxièmement, Dieu, et nous l'avons déjà dit, utilise sa parole et son esprit pour faire naître des choses nouvelles. Nous l'avons lu dans Genèse chapitre 1, Dieu a utilisé sa parole et son esprit pour créer toutes choses. C'est par sa parole qu'il donne l'impulsion et c'est par son esprit qu'il met en action sa volonté. Le psaume 33, versets 5 à 6 nous dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Psaume 33, verset 6 « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Dieu crée des choses nouvelles avec son esprit. Et nous le chantons, tu es le créateur, tu crées de nouveaux cœurs. Tu es le créateur, tu es le créateur. C'est merveilleux. Tu crées de nouveaux cœurs. Donc, c'est aussi par sa parole et par son esprit que Dieu fait naître des hommes à la vie de Dieu. En d'autres termes, c'est par sa parole et par son esprit qu'a lieu la nouvelle naissance. Cette naissance par laquelle, alors que nous étions des gens complètement étrangers à Dieu, que nous vivions dans nos passions, attachés au monde, à la tombola, à la belote et tout ça. J'ai pas dit qu'on ne peut pas faire de la belote. Mais enfin bon, l'esprit vient à nous. Cet esprit crée des nouveaux cœurs. Il crée des êtres nouveaux. Il crée des nouvelles personnes, de telle sorte que nous devenons des personnes qui peuvent entrer devant Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, justement, notre nouvelle naissance a lieu non seulement par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous renouvelle, qui nous fait entrer dans la nouvelle naissance, mais aussi par la parole. Rares sont les personnes qui ont été converties sans avoir entendu une parole. Que ce soit la parole d'un prédicateur dans une tente, que ce soit la parole des parents qui nous enseignent la parole de Dieu, que ce soit mais c'est aussi par la parole que nous naissons à Christ. C'est cette parole qui nous fait grandir en Christ. Et c'est cet esprit qui nous illumine pour que nous puissions découvrir Dieu, pour que nous puissions comprendre sa volonté. Vous savez, la plupart des choses dont nous parlons à l'Église, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est complètement absurde. Monsieur Benoît parlait de la magnificence. Ouais, c'est quoi la magnificence? Le gars de la rue, il entre ici, il dit la magnificence. Oui, la magnificence, et bien quoi? Moi, je préférais la magnificence dans mon compte en banque. Là, ça m'arrangerait la magnificence. Mais même la magnificence, si nous pouvons parler de magnificence, c'est parce que l'Esprit de Dieu nous ouvre l'intelligence pour que nous puissions le contempler. Si nous n'avions pas l'Esprit de Dieu, nous serions incapables d'avoir ne serait-ce qu'un commencement d'idée de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu nous font naître à la vie nouvelle. Non seulement ils étaient présents pour créer le monde, mais encore aujourd'hui, ils créent des nouveaux cœurs. Et c'est par eux que nous avons été rendus à la vie de Dieu. Puisque vous avez été régénéré, 1 Pierre verset 1, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu. Et dans Jean chapitre 3, Jésus dit à Nicodème, personne ne peut connaître le royaume de Dieu s'il le naît de nouveau. Le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau. Il crée encore de nouveaux cœurs. Aujourd'hui encore, il est à l'action. Mais aussi, la parole et l'esprit ont été présents pour faire naître une chose nouvelle. Ne l'oublions pas, qui est quelle est la chose nouvelle qu'on fait naître l'esprit? Jésus. C'est l'esprit qui a fait naître Jésus. Puisqu'il a été conçu du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. La parole de Dieu a annoncé une chose, la parole de Dieu que nous pouvons lire dans Ésaïe et dans d'autres textes où on annonce la venue du Messie. Dieu a annoncé la chose qu'il allait faire et l'Esprit l'a mis en action en faisant naître Jésus dans le ventre de sa mère. Encore une fois, la parole de Dieu qui est donnée et l'Esprit qui la met en action. Comme la parole de Dieu qui dit que la lumière soit et l'Esprit qui met la chose en action. Jésus, la nouvelle chose que Dieu a fait naître Jésus par son Esprit et par sa parole. Mais bien plus, nous savons aussi que Jésus est la parole. Ainsi qu'il est écrit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. La parole était avec Dieu. Depuis le commencement, Dieu agit par sa parole et par son esprit. Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Jésus, que 1 Jean chapitre 1 appelle dans certains textes le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, ce qui met en action. Le Verbe, c'est difficile à définir, le Verbe. Bon, vous savez tous ce qu'est un verbe hein, dans une phrase. Le premier truc, comment on appelle ça? Complément, oui, sujet, voilà. Oui, ça fait longtemps. Hein. Bon. Sujet, verbe, complément. C'est ça une phrase. Dans un texte, on doit faire, on ne peut pas écrire des trucs où il n'y a pas de verbe, où il n'y a pas de sujet, voilà. Et donc, le sujet, le verbe, c'est la partie de la phrase qui met la phrase en action. Je marchais vers le cinéma. Voilà, ça indique mon action. Vous avez tous compris, le verbe, voilà. Je ne saurais rien dire d'autre. Voilà. Donc Dieu met en action aussi son verbe, Jésus, le verbe. C'est par son esprit que Dieu fait naître en nous le vouloir et le faire. Même les choses que nous faisons pour Dieu, nous n'en rendons peut-être pas compte, même les petites choses, c'est aussi l'Esprit de Dieu qui nous met à cœur de faire certaines choses. Que ce soit de rendre un service dans l'Église, que ce soit d'apporter quelque chose de particulier, d'apporter une offrande ou quoi, c'est l'Esprit de Dieu qui nous l'inspire d'avoir certaines attitudes, certaines actions, de nous lancer dans certaines choses. Il crée en nous le vouloir et le faire. Troisièmement, Dieu utilise sa parole et son esprit pour donner la vie à une chose inanimée. Jean 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Ça, c'est un verset dans lequel on voit au maximum cette complémentarité qu'il y a entre la parole et l'esprit. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que la parole seule ne fait rien. La parole prise toute seule, la parole de Jésus prise toute seule, elle ne fait rien. C'est l'esprit qui vivifie la parole, de telle sorte que cette parole devient esprit et vie, qu'elle devient vivante, une parole vivante, une parole qui peut agir. La parole a une action normale. Si je dis quelque chose à quelqu'un, il m'entend, ça peut créer quelque chose dans son cœur. Mais lorsque l'Esprit de Dieu se saisit d'une parole, cette parole peut complètement transformer la vie de quelqu'un. Complètement. Et c'est pour ça que même lorsque nous allons évangéliser, lorsque nous allons témoigner, nous prions en disant « Seigneur, que ton Esprit donne de la vie à mes paroles. » Parce que si c'est simplement dit « Bonjour, je viens parce que j'aime Jésus. » Oui, ça fait quoi? Mais si on prononce la même phrase et que Jésus donne la vie à cette parole-là, cette parole peut devenir puissante. Peut-être que Francis vous a déjà expliqué l'histoire de ce prédicateur qui avait prêché pendant des heures et des heures et qu'il y avait un homme. C'est toi qui m'as expliqué ça, Francis. C'est toi qui me l'as dit, je m'en rappelle bien. Ne mens pas. Non. Ça raconte tellement qu'après tu le sais. Bon, l'histoire de ce prédicateur qui a prêché pendant des heures, et il y avait un homme au fond de la salle qui était là, qui écoutait, et le prédicateur, pendant toute la prédication, il n'a rien ressenti de particulier, et puis le prédicateur a fermé sa Bible, et il est parti, et voilà. Et puis le frère, le monsieur, finalement a été touché. Et puis le pasteur lui demandait « Par quelle partie de la prédication avez-vous été touché ?» À mon avis, il disait comme ça « Je retirerai la même chose, peut-être que ça marchera. » Et puis le gars lui dit « Non, au moment où vous avez fermé votre Bible, j'ai compris qu'il y avait une page de ma vie qui s'était tournée et que je devais me tourner vers Jésus. » Donc Dieu peut donner la vie à un geste aussi, un simple geste que nous faisons juste comme ça. Voilà, j'ai fermé ma Bible. Enfin, je vais le faire souvent, comme ça vous allez tous vous reconvertir. Un simple geste. Dieu peut donner la vie à nos gestes. Dieu peut donner la vie à nos attitudes. Vous savez, un pasteur expliquait, alors c'est un pasteur, ça aurait pu être un chrétien, il n'y a pas que eux qui ont le Saint-Esprit. Un pasteur expliquait qu'il était un jour chez un de ses amis qui a un magasin, un peu comme Yvan. Et il était sur une échelle, parce que son ami était occupé, et il était sur une échelle en train de remplacer une ampoule. Et alors, il était là avec son ampoule, et puis il y a une femme. Sa femme était dans le magasin en train de faire des emplettes. Et alors, il y a une dame qui rentre, et alors elle le regarde pendant qu'il est en train de changer l'ampoule. Alors elle dit, oh, c'est merveilleux, c'est tellement merveilleux. Alors il la regarde et il dit, oui. Alors il dit, je ne sais pas quoi dire. Alors je lui ai dit, il fait beau, hein. Ah oui, d'accord, je ne sais pas quoi dire, il fait beau. Et puis après, finalement, cette même femme est arrivée à l'église. Et il dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour que vous me regardiez comme ça? Ma femme était là, en plus j'aurais pu passer pour... Et puis après, elle dit non, mais c'est... j'ai compris que Jésus était la lumière du monde. Ça peut paraître comique, bien évidemment. Mais Dieu peut se saisir de ce genre de choses. Dieu peut mettre la vie dans ce genre de gestes. Rappelez-vous dans Nombre chapitre 6, Dieu dit au sacrificateur, vous élèverez les mains sur mon peuple et vous direz que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers vous et qu'il vous donne sa paix. Et j'inscrirai mon nom sur leur front. Nombre chapitre 6. Dieu peut même se saisir d'un geste que nous faisons selon sa volonté, bien sûr, pour agir. Il peut se saisir aussi d'une parole, il peut se saisir de tellement de choses. Mais l'Esprit doit donner la vie. C'est ce que nous avons lu dans Corinthiens chapitre 2. Des simples paroles inspirées par la sagesse ne suffisent pas. Nous avons besoin que le Saint-Esprit agisse et crée des choses en vie. Quatrièmement, Dieu utilise sa parole et son esprit pour redonner la vie aux choses mortes. Il est écrit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise fils de l'homme et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Rappelez-vous cet épisode d'Ézéchiel, les ossements desséchés, où Ézéchiel est devant une mare d'ossements complètement desséchés, et Dieu lui dit, parle à l'Esprit, parle à l'Esprit, et dit, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Dieu donne une puissance à la parole d'Ézéchiel, de telle sorte que ces morts, ces ossements complètement desséchés revivent, ils redonnent de la vie aux choses qui étaient mortes. C'est aussi ça la puissance de Dieu, lorsque sa parole et son esprit agissent ensemble. Et donc, Dieu utilise sa parole et son esprit pour redonner l'espoir, il n'y en a plus. Il y a des personnes qui vivent des vies entières où à un moment donné, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie, on dit, mais voilà, c'est fini, c'est foutu, on n'y arrivera plus jamais. Mais Dieu peut ressusciter de nouvelles choses par sa parole, par une parole qui vient jusque nous, par une parole que nous entendons, par une parole même donnée par quelqu'un dans la rue. Vous connaissez Cyrus dans la Bible, qui était un non-croyant et qui a été utilisé par Dieu pour accomplir ses desseins. Même à un non-croyant, Dieu peut donner une parole qui va prendre vie pour nous. Peut-être que quelqu'un d'autre va être à côté de moi et ne va rien ressentir par cette parole-là, mais pour moi, Dieu peut donner à cette parole un souffle de son esprit pour que cette parole prenne un sens particulier dans ma vie. Ça, c'est la puissance de Dieu aussi. Redonner l'espoir, redonner la vie aux choses mortes. Par sa parole et par son esprit, Dieu peut redonner la vie à des personnes qui avaient une foi morte, une vie de prière morte, une vie de famille morte. Par sa parole et par son esprit, Dieu peut ressusciter des choses complètement mortes, complètement même visuellement détestables, repoussantes. Par sa parole et par son esprit, il peut redonner la vie aux choses mortes. Et ensuite, cinquièmement, Dieu utilise sa parole et son esprit pour répandre la bonne nouvelle et appeler les hommes à lui. De Samuel 23, verset 2, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. » L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. La puissance de la parole du prophète, c'est l'esprit que Dieu met en lui. Isaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. » Dieu donne à ses serviteurs, à ses enfants, des paroles de guérison, des paroles de délivrance, des paroles de justice. Il dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Oui, par son esprit, par sa parole, des hommes peuvent venir à lui. C'est ce que nous avons lu dans Actes chapitre 2. Encore un exemple, il y a eu à la création, il y a eu à la naissance de Jésus, il y a eu à tout un ensemble de moments l'union de la parole et de l'esprit. Mais là où nous l'avons vu, c'est dans Actes chapitre 2, où par son esprit, par ces langues de feu qui ont été déposées, le signe du témoignage, une langue de feu du témoignage, et par sa parole proclamée par Pierre, Dieu a sauvé 3000 personnes. Quand la parole de Dieu et quand l'Esprit de Dieu s'associent ensemble, Dieu fait de très grandes choses. Dieu fait de très grandes choses. Pour terminer, je voudrais simplement dire que nous avons, nous, enfants de Dieu, dans notre vie personnelle, dans notre vie d'Église, la responsabilité de cultiver l'action et la présence de l'Esprit et de la parole. Et c'est là que nous voulons en venir ce matin. Nous devons être des enfants de Dieu, des chrétiens, dans lesquels la parole de Dieu et son esprit sont pleinement actifs, sont pleinement présents, sont pleinement reconnus, où l'on ne met pas l'un de côté en disant « Mais oui, mais moi je veux juste connaître la Bible, tout le reste, les fruits de l'esprit, les dons du Saint-Esprit, tous ces machins, je veux même pas savoir, je veux même pas qu'on en parle, moi je veux juste connaître la Bible. » Et ne pas non plus être quelqu'un qui dit « Moi, la parole, ça ne m'intéresse pas, Dieu me révèle tout, je n'ai pas besoin de réfléchir, je n'ai pas besoin de lire, je comprends tout, je prie simplement et Dieu me montre tout. » Nous avons besoin d'avoir réellement des vies dans lesquelles l'Esprit de Dieu et la parole sont ensemble, épousés, mariés et agissants. Alors, la Bible nous met en garde vis-à-vis de la parole d'abord, la première main de Dieu, de ne pas diluer la parole. Ne pas diluer la parole, ça veut dire que nous ne devons pas diminuer la force des paroles qui sont dans la Bible. Vous savez, il y a une différence entre déformer la parole. Déformer la parole, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle dise autre chose que ce qu'elle ne dit, que beaucoup de gens font, en déformant, en tronquant le message de la parole. C'est quelque chose que nous ne devons pas faire. Nous ne pouvons pas non plus diluer la parole. C'est-à-dire faire en sorte que les paroles pesantes de la Bible aient une petite influence dans nos vies. Vous voyez, quand vous prenez de la grenadine, vous la mettez dans un verre. Si vous mettez de l'eau pour remplir le verre, vous avez de la grenadine et vous sentez le sucre. Si vous mettez la même dose de grenadine et vous la mettez dans un seau et vous mettez de l'eau et vous buvez au seau, vous ne sentirez plus la grenadine. Vous avez compris ou pas? Vous me regardez comme ça, vous avez déjà vu la grenadine quand même. Bon alors, nous pouvons aussi diluer la parole de Dieu. Nous pouvons diluer la parole de Dieu en méprisant certaines paroles, en les ironisant, en les mettant de côté, en faisant comme si c'est pas grave, c'est rigolo, ça on n'en tient pas compte. Nous pouvons diluer la parole de Dieu. Nous pouvons mépriser la parole de Dieu. Marc chapitre 4 nous met en garde de ne pas laisser les difficultés ou les persécutions déraciner la parole de Dieu. Rappelez-vous la parabole du semeur qui sème. Il y a un certain endroit où il sème, où il dit que les difficultés ou les persécutions viennent déraciner la parole de Dieu. À la première difficulté, la parole s'en va. À la première persécution, au premier problème, la parole s'en va, on l'oublie complètement. Dans le même texte, il nous met en garde de ne pas laisser les soucis de ce monde, de ne pas laisser l'attrait trompeur des richesses, de ne pas laisser nos passions étouffer la parole de Dieu. C'est aussi possible. Ce qui est montré ici, c'est que la parole de Dieu, elle est agissante en elle-même, elle est puissante pour sauver. Elle a une vie particulière, mais nous pouvons la diluer de telle sorte qu'elle n'agisse plus. Nous pouvons l'étouffer de telle sorte que dans notre vie, elle n'ait plus d'action. Nous pouvons la déraciner. C'est ce qu'il dit dans la parabole du semeur. Oui, la parole elle est répandue. Oui, on prêche. Oui, vous lisez la Bible. Oui, il se passe plein de choses. Mais notre attitude est de nature à rendre inactive la parole de Dieu, à diminuer sa puissance, à diminuer sa force, à diminuer son pouvoir. Et puis d'autre part, vis-à-vis de l'Esprit, la Bible nous met en garde dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Parce que bien évidemment, l'Esprit habite dans chacun des chrétiens. Sans besoin particulier à la conversion, nous sommes tous habités par le Saint-Esprit. Nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. Et pourtant, malgré que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous pouvons éteindre son action. Il nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, j'en ai déjà parlé, n'attristez pas le Saint-Esprit par des péchés inconsidérés, ne pas attrister le Saint-Esprit. En d'autres termes, je peux avoir l'Esprit, mais je peux l'attrister. Il est là, il est en moi, il est toujours là, mais il est attristé. Quelqu'un disait, c'est comme quand on est fâché avec quelqu'un et qu'on dit, j'ai l'image, mais plus le son. Voilà. Ma femme est fâchée contre moi, j'ai l'image, mais plus le son. Elle est toujours là, mais elle ne dit rien. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. On peut avoir le Saint-Esprit, mais il est attristé. Il est toujours présent, on ne s'en va pas, mais il n'a plus envie d'agir. N'est-ce pas que ça vous est déjà arrivé dans votre famille ou dans votre travail, d'avoir quelqu'un qui vous fait une remarque désobligeante ou quoi, et vous dites, puisque c'est comme ça, je ne dirai plus rien, je ne ferai plus rien. Je suis toujours là, je ne vais pas m'en aller, hein. je ne vais pas démissionner, je ne vais pas divorcer, je suis toujours là, mais je serai te débrouiller, je ne ferai plus rien. Dans l'église, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ah, mais puisque ça ne va pas comme je veux, ben ça va, pas de problème, ben je viendrai tous les dimanches, je ne ferai plus rien. Voilà. Nous pouvons aussi avoir cette attitude vis-à-vis, le Saint-Esprit peut aussi avoir ce genre de réaction vis-à-vis de nos péchés peuvent l'attrister. Acte 5, verset 19 nous dit, dans le cas d'Ananias et Saphira, ne pas tenter l'Esprit par des mensonges. Il dit à Ananias et Saphira, pourquoi avez-vous tenté le Saint-Esprit par vos mensonges? Nous pouvons tenter l'Esprit aussi. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, il nous est dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit. C'est écrit, n'éteignez pas. Dans Hébreux 10, verset 29, il nous est dit de ne pas outrager l'Esprit de Dieu. Ne pas outrager en minimisant l'œuvre de la croix. Nous pouvons mépriser l'œuvre de la croix et comme cela, outrager l'Esprit. C'est comme un outrage à un magistrat ou un outrage à... C'est-à-dire une insulte, un manque de respect. Actes chapitre 7, verset 51 nous dit de ne pas résister au Saint-Esprit. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Vous voyez que la parole et l'esprit ont une action, surtout quand ils sont ensemble. Dans notre vie, ils peuvent agir. Mais que ce soit la parole ou que ce soit l'esprit, nous pouvons les éteindre, nous pouvons les diluer, nous pouvons les étouffer. Ils sont toujours là, ils s'en iront pas. Si vous avez, par exemple, une assemblée qui se comporte comme dans la parabole du semeur où toutes les graines tombent dans la rocaille, ben la parole, les semences, elles continuent à être... On continue à les mettre, les semences. Mais elles ne font rien. Elles ne portent pas de fruits. L'esprit peut être présent en nous, mais ne pas agir. Or, il a des dons à nous donner, il a des fruits à manifester, même les fruits de l'esprit. L'esprit peut habiter en moi, mais je peux aussi ne pas manifester les fruits de l'esprit. Si ma personne fait obstacle à l'action du Saint-Esprit, il est en moi, mais... mes idées, mon caractère, ma manière d'être peuvent mettre un obstacle. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous ne sommes pas des gens constamment aimants, pleins de bonté, pleins de paix. C'est parce que nous faisons obstacle à l'action de l'Esprit de Dieu. Et pour terminer, rappelons-nous que la plupart des dons du Saint-Esprit se manifestent dans la parole aussi. La parole de sagesse, la parole de connaissance, le parler en langue, la prophétie. Encore un endroit où la parole et l'esprit associés ensemble peuvent faire des grandes choses pour nos vies. Alors pour terminer, Dieu a deux mains, sa parole et son esprit. Ces deux mains sont agissantes parce qu'elles sont ensemble, parce qu'elles travaillent ensemble, parce qu'elles se tiennent. Elles peuvent faire des grandes choses, elles peuvent créer, elles peuvent délivrer, elles peuvent bénir. Mais nous avons notre responsabilité de veiller à ne pas l'éteindre, à ne pas rendre inactive la parole de Dieu. Et pour terminer tout à fait, cette citation qu'on dit parfois, « Là où la parole et l'esprit sont en accord, là Jésus-Christ est Seigneur. » Amen. Si quelqu'un a un chant,